Ce soir, nous allons parler de l'historien face à Jésus, ou Jésus face à l'historien, ou Jésus face à l'histoire. Et donc, la question fondamentale, c'est Jésus nous est-il historiquement accessible ? J'avais un collègue de mathématiques tout à fait athée qui expliquait à ses élèves, je ne vois pas trop le rapport avec les maths, mais que Jésus n'avait jamais existé. Vous pouvez expliquer ça tranquillement pendant son cours entre deux explications théoriques sur les équations ou les suites. Et les élèves, ils prenaient ça comme une vérité aussi exacte que les vérités mathématiques qu'il était en train de leur enseigner. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au clair sur cette question. Alors, qu'est-ce qu'un historien nous dit de Jésus? Eh bien, un historien, puisque c'est l'étymologie du terme, il mène l'enquête. Historier, ça veut dire enquête. C'est le titre de l'ouvrage d'Hérodote, qui s'était penché au 5e siècle sur l'origine de la guerre entre les Grecs et les Barbares et les Perses, les fameuses guerres médiques. Donc il a fait une enquête, il est allé voir tout le monde, il a réfléchi, il a donné son point de vue, il a donné le point de vue de tout le monde. Alors enquêtons. Et quand on mène une enquête, que ce soit l'inspecteur Maigret, Sherlock Holmes ou n'importe qui, eh bien, on cherche des témoignages et des sources. Alors, des témoignages oraux, c'est un peu difficile, mais des sources écrites, nous en avons. Nous en avons de deux types. Alors, on va commencer par les plus éloignés. On a des sources écrites non chrétiennes. Ce sera l'objet de ma première partie. On a des sources écrites chrétiennes, bien évidemment, ce sera l'objet de ma deuxième partie. Et puis, on a des sources archéologiques. Alors, je ne vais pas faire l'archéologie de la Terre Sainte, j'en suis bien incapable, mais sur Jésus spécifiquement, l'histoire nous a légué des objets tout à fait singuliers et qu'on attribue à la Passion et qui sont en particulier le linceul de Turin, la tunique d'Argenteuil et le suaire d'Oviedo. Donc je dirai quelques mots sur ces trois reliques attribuées à la Passion du Christ, puisque si bien ce sont des objets qui peuvent être confrontés à ce que l'on nous dit de Jésus. Alors, première partie, l'historien, les sources écrites non chrétiennes. D'abord, il faut savoir qu'il y a des textes non chrétiens qui nous parlent de Jésus et des premiers chrétiens, et je vais vous citer les quatre principaux. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, personne n'a contesté l'existence de Jésus. Pour les analystes, les historiens de cette époque, Jésus était un juif obscur, marginal, dans une province très éloignée de l'Empire romain. Ce n'est pas le seul agitateur politico-religieux à connaître la mort ignominieuse des esclaves et des rebelles. Il y a d'autres figures comme ça qui ont très très mal terminé. Voilà. Alors, le premier auteur qu'on va évoquer, c'est un juif romanisé du 1er siècle qui s'appelle Joseph ben Matthias, et qui est plus connu sous le nom d'emprunt de Flavius Joseph. Alors, quelques mots de l'auteur, parce que c'est important de savoir qui écrit. Alors, Flavius Joseph, c'est un destin très singulier. Il est né en Palestine en l'an 37 de notre ère. C'est un aristocrate lettré qui vient d'une famille sacerdotale de Judée. Enfin, il appartient au courant pharisien. En 64... il s'est rendu à Rome pour plaider la cause de prêtres déportés par ordre du procurateur Félix. Il a gagné son procès là-bas grâce à l'appui de Poppée, la seconde femme de Néron. Et il est revenu en Palestine en 66, au moment même où ses patriotes étaient au bord d'un soulèvement extraordinaire. Et il a été nommé gouverneur général de Galilée par le Sanhédrin. Autrement dit, ils l'ont placé à la tête des troupes révoltées. Il a été fait prisonnier par les Romains en juillet 67, position délicate. Et alors, il a prophétisé au proconsul Flavien Vespasien qu'il accéderait un jour à la dignité suprême d'empereur. Ce qui est arrivé. Coup de chance. Et alors, Vespasien, pour le récompenser, lui a fait octroyer la citoyenneté romaine. Il se l'est attaché comme historiographe, donc chargé de rédiger l'histoire officielle de son règne. Et donc, à ce moment-là, Joseph ben Matthias, reconnaissant, a accolé à son nom celui de Flavius, puisque c'était le nom de l'empereur. Évidemment, pour ses coreligionnaires, c'est un traître avec un grand T. Et d'ailleurs, Flavius Joseph a assisté au siège de Jérusalem dans les rangs romains. alors qu'a priori, il aurait dû être plutôt en face. Alors après le carnage, il s'est rendu à Rome et il a fait œuvre d'historien. Il a écrit en particulier deux ouvrages. Le premier, c'est La guerre des Juifs, celle qui venait de se terminer, qu'il a composée entre 75 et 79. Et le second, ce sont Les Antiquités juives, qu'il a composées en 93-94. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est le peuple hébreu avant la guerre des Juifs. Dans Les Antiquités juives, il évoque Jean le Baptiste, sa prédication au désert, son exécution par ordre d'Hérode Antipas, tétrarque de Galilée. Il cite le nom de Jacques, je cite, « le frère de Jésus », voilà le nom de Jésus, appelé le Messie. Jacques, chef de la première communauté judéo-chrétienne. Et donc, il va consacrer quelques lignes à Jésus que je vais vous lire. C'est donc un texte essentiel. « À cette époque, vécut Jésus, un homme exceptionnel, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne loi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes. Lorsque, sur dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent de l'aimer parce qu'il leur était apparu le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré, ainsi que mille autres merveilles à son sujet. De nos jours encore, ne s'est pas tarie la lignée de ceux qu'à cause de lui, on appelle chrétiens. Donc, à la fin du 1er siècle, dans les années 93-94, nous avons un écrivain juif de renom qui atteste l'existence en Palestine d'un homme nommé Jésus, réputé pour sa sagesse, son enseignement, qui accomplit des miracles, qui est populaire, et qui a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate, c'est-à-dire entre l'an 26 et l'an 36 de notre ère, et donc son existence est une certitude, et la croyance en sa résurrection a été très tôt attestée par ses disciples. Voilà le témoignage de Flavius Joseph, c'est un témoignage absolument essentiel et d'autant plus intéressant qu'il n'émane pas d'un chrétien du tout. Deuxième auteur, Pline le Jeune. Neveu et fils adoptif de Pline l'Ancien. Alors Pline le Jeune, c'est un haut fonctionnaire de l'Empire, car il est proconsul de Bithynie et du Pont en Asie mineure. Ça veut dire qu'il a la responsabilité d'une province qui est sur la rive sud de la mer Noire en Asie mineure. D'accord ? C'est là la Bithynie. Et donc, nous sommes entre l'an 111 et l'an 113, et il pourchasse les chrétiens, les sectateurs de cette religio illicita. Le christianisme n'est pas reconnu comme religio licita, parce que pour l'être, il faut déjà honorer les dieux de ses ancêtres, et les chrétiens sont accusés de ne pas le faire. Alors, il écrit à l'empereur Trajan, en l'an 111, entre 111 et 113, le texte suivant. Il a mené l'enquête, et vous allez voir comment. Ils affirment que toute leur faute ou leur erreur s'est bornée à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un dieu, de s'engager par voie de serment, non à perpétrer quelques crimes, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée, à ne pas nier un dépôt réclamé en justice. J'ai cru d'autant plus nécessaire de soutirer la vérité à deux esclaves que l'on disait diaconesses, quitte à les soumettre à la torture. Je n'ai trouvé qu'une superstition déraisonnable et sans mesure. Autrement dit, dans la lettre de Pline, on a des informations sur les chrétiens de sa région au début du IIe siècle. On a des détails sur la liturgie, y compris l'alternance, sans doute, des versets des psaumes. On y affirme la divinité de Jésus, un hymne au Christ comme à un dieu. On a pas mal de détails sur leur morale, la morale chrétienne. Elle est plutôt honorable. Et il y a même un aspect social étonnant, puisque les personnes qu'on a torturées pour avoir des informations, les responsables, dans le civil, si je puis dire, ce sont des esclaves. Donc on a beaucoup d'informations dans ce texte-là. Troisième référence, je vais un peu revenir en arrière, c'est l'historien Tacite, T-A-C-I-T-E, qui avait vécu entre l'an 56 et l'an 118 de notre ère, et qui était d'origine gauloise, donc on y est peut-être un peu plus attaché, on s'y reconnaît, on va dire, et qui était sénateur. Lui a été gouverneur autrefois de la province d'Asie, et il nous a laissé une œuvre historique qui s'appelle « Les Annales ». Et dans ce texte, il évoque en particulier un épisode antérieur à ce que j'ai dit avec Pline le Jeune, c'est-à-dire les représailles sanglantes organisées par Néron contre les chrétiens en 64-65 de notre ère. Je vous lis Tacite. Ce nom leur vient de Christ, Christos, que le procurateur Ponce Pilate, sous le principat de Tibère, avait livré au supplice. Réprimé sur le moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non seulement en Judée, où le mal avait pris naissance, mais encore à Rome, où ce qu'il y a de plus affreux et de plus honteux dans le monde afflue et trouve une nombreuse clientèle. On commença donc par se saisir de ceux qui confessaient leur foi, puis sur leur révélation d'une multitude d'autres qui furent convaincus moins du crime d'incendie que de haine contre le genre humain. On ne se contenta pas de les faire périr, on se fit un jeu de les revêtir de peaux de bêtes pour qu'ils fussent déchirés par les dents des chiens, ou bien ils étaient attachés à des croix enduits de matières inflammables, et quand le jour avait fui, ils éclairaient les ténèbres comme des torches. » Donc c'est atroce. Dans la nuit du 18 au 19 juillet de l'an 64, a eu lieu l'incendie de Rome, et la rumeur qui courait, c'était que l'empereur lui-même, Néron, en était l'auteur. Et donc Néron, en retour, a fait des chrétiens ses boucs émissaires et a déclenché la répression contre eux, en particulier au printemps suivant, tel qu'on vient de nous la décrire. Donc nous, l'information que nous retenons, c'est que Tacite aussi sait d'où vient le christianisme, il vient de quelqu'un qu'on appelle le Christ, qui a été supplicié sous Ponce Pilate, en Judée, et malgré la répression, le christianisme s'est répandu, et en 64, il a l'air déjà extrêmement présent à Rome pour qu'on puisse déclencher une répression de grande envergure. D'accord ? Donc ça, c'est une information très importante. Quatrième auteur, Suétone, S-U-E-T-O-N-E, qui a vécu entre 69 et 125 de notre ère. Suétone est un historien, il est aussi fonctionnaire puisqu'il est chef du bureau des correspondances de l'empereur Hadrien, avec un H, et il nous a laissé une vie des 12 Césars, donc une succession de biographies des empereurs. Et il écrit à propos de l'empereur Claude, qui a régné entre 41 et 54, tôt donc. Alors, juste une phrase. « Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation de Crestus, il les chassa de Rome. » De fait, on sait que ce décret d'expulsion date de l'an 49-50. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a déjà des chrétiens à Rome, suffisamment nombreux pour qu'on les expulse en raison du désordre que provoque leur présence, en particulier, peut-on penser, entre la communauté juive et la communauté devenue chrétienne. Et donc, on les distingue bien désormais, et donc très tôt, des communautés juives traditionnelles. Donc voilà les quatre grandes références, hein, Flavius Joseph, Pline le Jeune, Tacite et Suétone. Donc chacun nous apporte des informations qui, même si les textes sont courts, sont d'une très grande densité. Alors il y a d'autres auteurs, mais plus tardifs, qui nous donnent des références sur Jésus, mais les plus importants sont ceux que je viens de vous citer, puisqu'on va jusqu'au début du IIe siècle. Voilà pour les sources historiques antiques. Alors, et les quatre premiers témoignages. Dans les sources romanesques antiques, il y a des éléments éventuellement intéressants, même si on ne peut pas en tirer d'informations historiques définitives. N'empêche que dans le Satyricon de Pétrone, dont je ne vous recommande pas les lectures, écrit vers 65, il est quand même troublant, donc au moment des persécutions de Néron, il est quand même troublant de lire qu'on nous parle de chant du coq, d'une ampoule de parfum, d'allusions qui font penser à l'institution de l'Eucharistie. Est-ce qu'il y aurait des liens avec l'évangile de Marc ? On n'en sait rien, mais on remarque quand même qu'il y a des choses troublantes. Il y a un autre roman qui s'appelle « La matrone d'Éphèse », où on nous parle de brigands crucifiés condamnés par un gouverneur de province, qui sont veillés la nuit par un soldat afin que personne n'enlève les corps, et qui cependant, le troisième jour, ont disparu, l'un d'eux étant porté et remplacé par un autre. Dans d'autres romans, on voit il y a des morts apparentes de crucifiés ou un tombeau de jeune fille trouvé vide. Voilà. Donc dans la littérature romanesque, il y a des éléments qui font étrangement écho à la foi, avec la foi chrétienne, mais on ne peut pas en tirer de conclusion historique pour autant. Mais il faut savoir que ça existe. Enfin, il y a un type de texte, toujours dans ma première partie, auquel je vais m'étendre un tout petit peu, qu'on appelle les évangiles apocryphes. Alors, évangile, j'aurais dû classer ça peut-être dans ma partie sur les sources chrétiennes. Alors vous voyez que c'est à cheval, on va voir que c'est à cheval entre les deux. Apocryphe, apocryphos, c'est ce qui est secret et caché. Ça désigne d'abord des textes non retenus par l'Église comme dignes de figurer dans le canon des Écritures, parce qu'on ne considère pas qu'ils sont inspirés en tant que tels. Voilà. Alors, vous savez qu'on en entend parler régulièrement, c'est un des marronniers du journalisme. Chaque année, la presse magazine nous fait un dossier sur l'évangile de Judas, je ne sais quoi, et comme si c'était quelque chose de nouveau et de révolutionnaire qui manifeste que ça y est, on a prouvé que l'Église a caché le grand secret au monde entier, mais elle a été démasquée. On a sorti un texte qu'elle a essayé désespérément de cacher et qui fout par terre tout ce qu'elle nous enseigne depuis 20 siècles. Comme ça qu'on nous le présente. Alors soyons sérieux. D'abord, disons que les évangiles canoniques, ceux que l'Église a énoncés comme étant inspirés, on n'en connaît la liste que par un texte du milieu du 2e siècle, entre l'an 150 et l'an 170, qui s'appelle le canon de Muratori. Des auteurs comme Irénée de Lyon, archifiable, hein, Irénée, disciple de Polycarpe, qui est disciple de Saint Jean. On a une succession directe entre Saint Jean et Irénée, s'appuyait déjà sur les mêmes références. Alors, il faut quand même le dire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les apocryphes ? Eh bien, il y a trois types de textes. D'abord, il y a des évangiles, aujourd'hui disparus pour l'essentiel, il y a des fragments par-ci par-là, bien sûr. Donc, un évangile, c'est une proclamation de la bonne nouvelle du salut, de la mort et de la résurrection du Christ, le Fils de Dieu fait homme. C'est d'abord ça, hein, c'est pas des biographies. Hein, c'est une bonne nouvelle sur fond biographique, mais c'est pas des biographies en tant que telles. Et donc, différentes communautés en ont élaboré. Je brûle pas trop le sujet en disant que Matthieu a écrit pour les Juifs, que Luc a écrit pour les Grecs, que Marc a écrit pour les Romains. C'est un secret pour personne, j'imagine. Et donc, il y a d'autres communautés qui avaient élaboré sans doute des professions de foi, mais ces communautés ont disparu, et souvent leurs textes avec, ou alors il nous en reste quelques éléments. Voilà. Donc, on a un évangile aux Hébreux, dont parle Saint Jérôme. On a des papyrus, je vous enverrai par internet si vous voulez une photographie du papyrus Egerton II, vous verrez. On a des fragments tout à fait intéressants, mais bon, voilà, donc c'est la foi chrétienne, mais qui n'a pas été mis dans le canon des Écritures, parce qu'on a perdu l'essentiel des textes. Deuxième type d'apocryphe, des textes qui relèvent de la littérature populaire et romanesque, et qui sont marqués par une tendance au merveilleux. Si vous avez lu La Légende dorée de Jacques de Voragine, qui est un texte du XIVe siècle, vous avez des vies de saints, c'est tout à fait sympathique à lire, mais très empreintes de merveilleux. Eh bien, ça participe de cette littérature, et d'ailleurs Jacques de Voragine s'est un peu inspiré de cette littérature-là. Par exemple, vous avez un évangile de l'enfance de Jésus, qui nous montre le jeune Jésus en Égypte, qui rencontre là-bas les larrons, et qui rencontre aussi le jeune Judas qui le frappe déjà. Vous voyez ça, on sent déjà que ça va mal tourner. C'est du mauvais roman. Hein, voilà. Vous avez le fameux protévangile de Jacques qui est connu parce qu'il nous donne les prénoms des parents de la Sainte Vierge, Anne et Joachim. Et dans la tradition chrétienne, on n'a pas mis le protévangile de Jacques dans la liste canonique. Mais on a conservé sans problème les prénoms, par exemple. Et puis, vous avez un truc amusant, pour vous dire que ça relève vraiment de... C'est pas méchant, quoi. L'histoire de Joseph le charpentier, qui vient des Coptes, donc des chrétiens d'Égypte. En fait, c'est une vie de Joseph racontée par Jésus. Donc c'est intéressant comme exercice. Hein, voilà, mais c'est presque un exercice spirituel, voilà. Mais bon, c'est de la littérature, pourquoi pas. Il y a des actes de Pierre aussi. Alors, les apocryphes qui nous intéressent, c'est la troisième catégorie, parce que là, ils ne sont pas chrétiens du tout. Ce sont des écrits dits gnostiques. Gnosis, la connaissance en grec. C'est un vaste courant philosophico-religieux que la gnose, qui se situe au carrefour de tout. Les religions orientales à mystère, où il y avait une initiation. La pensée iranienne, avec le dualisme, le feu, bon. L'hellénisme, le judaïsme et le christianisme. Donc il y a un mélange de tout, mais le soubassement, c'est des conceptions cosmologiques et anthropologiques qui sont en fait complètement différentes de celles de la Bible, dans le sens où c'est dualiste. C'est-à-dire que le monde, tout ce qui est matériel, serait, dans cette pensée, dans la gnose, l'œuvre d'un démiurge mauvais, d'un dieu mauvais, et tout ce qui est spirituel serait l'œuvre d'un dieu bon. Et donc le fait que les hommes soient des esprits prisonniers de la matière, enfermés dans un carcan charnel, est le signe qu'il y a eu un désordre qu'il faut réparer. Et le but de la vie, c'est donc de s'arracher à la souillure du corps, à la souillure de la matière, retrouver la parcelle de divinité qui est en soi, qui est soi. Et donc le salut ne peut venir que par la fuite du monde, par l'ascèse, par la recherche de son propre moi. Et ça passe par une initiation particulière. Et donc les gnostiques utilisent le message chrétien pour dire leur conception, qui n'a rien de chrétien. Et donc, ils considèrent que la foi n'est pas du tout une histoire de rédemption, mais une histoire de connaissance cachée, réservée à des initiés. Hein ? Et chez eux, Jésus, c'est le vivant, hors du temps, venu réveiller les esprits et leur rappeler qu'ils sont des étincelles issues de la sphère divine. Alors, on connaît bien les gnostiques, parce qu'en Haute-Égypte, en 1945, dans un lieu qui s'appelle Nag, N-A-G, Hammadi, H-A-2-M-A-D-I, on a découvert dans une tombe, dans une jarre, des codex, en fait toute une bibliothèque, puisqu'il y a 52 traités, ça fait 1156 pages au total quand même. Et donc on a des traductions en copte, en égyptien, de textes grecs à l'origine, qui ont été placés là vers l'an 400, c'est tardif, mais c'est pas le problème ça. On y trouve, je vous donne des titres pour que vous ayez une idée, le livre secret de Jacques, l'Apocalypse de Paul, l'évangile de vérité, l'évangile de Philippe, l'évangile selon Thomas, l'évangile de Pierre. Donc on aimerait bien que ces textes soient authentiques, évidemment, mais ils ne le sont pas, on les a simplement mis sous le patronage flatteur d'un apôtre pour tromper le lecteur. Alors, chez les gnostiques, il y a des personnages de l'entourage de Jésus qui sont complètement métamorphosés par l'imaginaire. Jude est assimilé à Thomas le jumeau, hein. Et la gemellité en fait est réemployée, vous allez voir. C'est lui qui serait mort sur la croix à la place de son frère jumeau Jésus, justement. Et on a confondu parce qu'ils étaient jumeaux. Marie-Madeleine devient une déesse de la sagesse et une grande prêtresse de l'ésotérisme. Et Judas, lui, devient un homme bienfaisant, livrant Jésus selon le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors, ça peut vous sembler comique, mais si vous avez vu un film qui s'appelle Le Neuvième Jour, vous savez que le SS qui fait sortir du camp où il est retenu prisonnier un prêtre pour le persuader pour qu'il persuade son évêque de faire une déclaration favorable au nazisme, en fait, ce SS qui est un ancien séminariste est devenu gnostique et il pense que Judas est l'homme providentiel qui a permis le salut en se sacrifiant, en livrant Jésus. Donc c'est pas du folklore, si vous voulez. Et vous trouverez toujours un allumé de service pour vous l'expliquer, ça. Hein, voilà. Alors, quelle est la valeur historique de ces apocryphes? Les derniers, elle est complètement nulle. Le protévangile de Jacques, il y a sans doute des réminiscences historiques intéressantes, comme je l'ai dit. Mais pour ceux de la troisième catégorie, c'est du grand n'importe quoi. Ça se voit en particulier à travers la version qu'ils nourrissent envers la femme. Vous pensez bien, les femmes mettent les enfants au monde, donc à chaque fois... Ce sont elles qui provoquent la captivité, l'esclavage d'une parcelle spirituelle dans un corps. C'est criminel.
Et donc, femme et féminité, voilà, sont très mal présentées dans ces textes. Le péché originel réside même dans la différenciation des sexes. La naissance d'Ève de la côte d'Adam est un principe de mort. Et donc, les gnostiques rejettent complètement la sexualité et le mariage, hein, et la fécondité, bien sûr, derrière. Pour accéder au royaume, les femmes, ces êtres inférieurs, désolé, devront retrouver l'unité primordiale, c'est-à-dire redevenir mâles. Et donc, on voit bien que derrière, il y a cette secte qui est connue sous le nom d'encratiste, hein, qui s'abstient de la chair des animaux, c'est les véganes de l'époque, de vin, et qui condamne le mariage comme une abomination inventée par le diable.
Pourquoi ils ne suicident pas ces gars-là ?
Eh bien, il y en a qui le font, t'inquiète pas. Voilà. Bilan, eh bien, autant chez nos historiens, les quatre premiers que j'ai cités tout à l'heure, il y a des informations absolument capitales, autant dans les écrits gnostiques, il n'y a pas grand-chose à tirer. Simplement, il faut savoir les manipuler pour savoir à quel type de texte nous avons affaire. Maintenant, dans une deuxième partie, je voudrais aborder les sources chrétiennes. Alors, faut-il présenter les sources chrétiennes ?
Une petite question.
Oui, je vous en prie.
Les textes en question, est-ce qu'on parle du texte d'origine, je ne sais pas, mais d'une copie
Dans le Nouveau Testament ?
Non, des textes cités.
L'apocryphe.
Alors, pour Nag Hammadi, on a des originaux.
Voilà,
c'est la chance.
C'est intéressant. Parce
oui,
que, parce
bien sûr.
Pour avoir des copies d'un évangile qui a, par exemple, fait n'importe quoi de 105 ans, mais ce n'est qu'une copie faite en 300. Par
bien
exemple.
Sûr. Mais pour le coup, depuis l'an 400, en gros, personne n'a retouché le texte. De même, on dira peut-être quelques mots de Qumran au cours suivant. On a déniché des textes, en particulier un certain nombre de textes vétérotestamentaires qui ont plus de 2000 ans et qui permettent de se rendre compte qu'un certain nombre de livres du Nouveau Testament qu'on a trouvé à Qumran sont à peu près à 99,9% la même version que dans nos Bibles. Alors on n'a pas trafiqué nos écritures. En tout cas, celles qu'on a trouvées à Qumran. Donc c'est absolument essentiel, quoi. Alors,
j'allais dire c'est miraculeux.
Certes. Et il n'est pas dit qu'on ne trouve pas d'autres choses. J'ai vu l'autre jour qu'on trouvait dans des masques, qu'on dépiautait des masques égyptiens, des fragments évangéliques. Alors, on attend une enquête plus approfondie et un vrai gros article scientifique, mais il y a forcément des choses à découvrir encore. Mais ça ne va rien changer, ça ne va que confirmer les choses, a priori. Alors, quelques mots sur les sources chrétiennes, même si évidemment on est beaucoup plus familiarisé avec elles. Quelques mots sur le Nouveau Testament d'abord, après je vous parlerai un peu des synoptiques et de Saint Jean. Alors, le Nouveau Testament c'est 27 livres. Alors, mis à part les quatre évangiles, les données contenues dans les autres livres sont assez pauvres en matériaux historiques relatifs à Jésus. Regardons d'abord les épîtres de Paul, il y en a 13. Alors, je ne vais pas vous présenter Saint Paul tout de même. Et puis on en reparlera la prochaine séance. Paul a écrit en fait aux communautés qu'il a fondées en Asie mineure et en Europe à l'occasion de ses voyages. Mais à chaque fois, on a conservé des écrits de circonstances. On sait qu'on a perdu des lettres aussi. Hein. Sauf dans la première aux Corinthiens. À Corinthe, il a fondé une communauté qui connaît toutes les agitations possibles et à laquelle il est obligé de faire des rappels fondamentaux. Et dans les rappels fondamentaux qu'il formule dans cette épître, il nous apprend les paroles de Jésus prononcées lors de son dernier repas. Là, les paroles de l'institution de l'Eucharistie, une allusion à la passion et à la résurrection. Et c'est plus ancien que les plus anciens des évangiles. C'est le texte le plus ancien qui nous raconte ça. Donc on a quand même un élément important. Dans les autres épîtres, c'est assez décevant du point de vue historique sur Jésus. Il y a plein d'autres choses, hein, sur la morale chrétienne et sur l'Église, bien sûr. Pas grand-chose chez Jean ou chez Pierre, sauf Pierre qui nous parle de la transfiguration. Alors, les évangiles ont été élaborés au sein des premières communautés chrétiennes. Ce sont d'abord des témoignages de foi, mais pas seulement, puisque ces textes sont plus ou moins imprégnés d'histoire, puisque la foi chrétienne s'appuie sur l'histoire. Dieu se dit dans l'histoire. Hein ? Et l'Éternel s'est inséré dans notre temps. Vous voyez ? Et donc, il est légitime de passer ces évangiles, maintenant je vais passer aux évangiles, au crible de la critique. Alors c'est pareil. Vous enquêtez, quelles sont vos sources? D'abord, vous allez chercher les plus anciens documents. Alors, évidemment, les originaux ont disparu, puisqu'il y a une corruption du support. On a recopié, on a donc des copies de copies. On a 800 manuscrits grecs du 2e au 4e siècle, à peu près 300 du 4e au 9e, etc. Les textes complets les plus anciens, ce sont des parchemins du 4e siècle, hein, complets. Donc le Codex Sinaiticus, qui est à Londres, le Codex Vaticanus, le Codex Alexandrinus et le Codex Bèze, du nom de Théodore de Bèze, le réformateur protestant. Et puis on a des centaines de lectionnaires, des lectures pour la liturgie. Mais avant, pour les périodes précédentes, on a 98 fragments, on en trouvera peut-être plus. Alors je vous enverrai des photographies de ces documents, c'est bien de les voir. Le papyrus Rylands, qui est un fragment de Saint Jean qui est daté de 125 de notre ère. Le papyrus Bodmer, qui est un texte presque complet de Jean vers 170 à 200. Il y a des variantes minimes et peu significatives par rapport au texte d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais c'est loin par rapport à Jésus. Oui et non. Parce que si on compare le temps passé entre un auteur ou un personnage, enfin un auteur surtout, le plus ancien et son œuvre, eh bien, sachez tout de même que pour Virgile et le plus ancien manuscrit de Virgile, il y a 6 siècles. Pour Platon, 13 siècles. Pour Euripide, 16. Et pour Jules César, 10. Donc ça permet quand même de relativiser cet écart de plusieurs décennies entre Jésus et tel ou tel morceau d'évangile. Voilà. Peut-être qu'un jour, on trouvera d'autres choses, on verra bien. Alors, je vais dire quelques mots des synoptiques. Les synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, qu'on peut mettre en parallèle parce qu'ils ont le même plan, avec des auteurs différents, des tailles différentes, hein, Marc est beaucoup plus petit que Matthieu et Luc, ils ont le même ordre d'exposition, la préparation du ministère de Jésus, son ministère en Galilée, sa montée à Jérusalem, sa passion et sa résurrection. Alors, il y a des variantes, évidemment. Et donc, il y a une relation entre les trois. Et pour la critique historique, et donc pour accéder à Jésus, il faut savoir comment ça fonctionne. Et on ne sait pas. On ne sait pas qui est à l'origine, parce qu'on a tendance à penser qu'il y a un auteur à l'origine, et puis d'autres qui se sont inspirés de lui. Alors, sous l'influence de l'école protestante allemande du 19e siècle, a été élaborée une théorie qu'on appelle la théorie des deux sources. C'est l'idée selon laquelle Marc serait antérieur. Il le date d'environ de 70, de notre ère. Il y aurait une source, une deuxième source perdue. Alors en allemand, source, ça se dit Quelle, avec un Q. Donc on appelle ça la source Q en français. Et ces deux éléments auraient informé Matthieu et Luc, rédigés 15 à 20 ans après. Donc ça, c'est la présentation classique de l'école allemande protestante. Alors, on a remis ce modèle en cause, d'abord par la datation. Et c'est venu d'un anglican dont le nom est très important, qui s'appelait Robinson. C'était un théologien libéral, par ailleurs anglican, évêque de Woolwich, et qui a démontré, à mon sens, que les écrits du Nouveau Testament étaient antérieurs à l'an 70 de notre ère. En fait, son pivot, c'est la destruction du temple cette année-là. C'est le point de réflexion de départ. Jésus a prophétisé la destruction du temple. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Mais dans la foulée, il n'y a aucune référence à cette destruction effective. Si on avait rédigé tout cela après l'événement même, eh bien le texte aurait évidemment, personne n'aurait pu résister à l'envie apologétique de dire « Vous voyez, il l'avait dit, c'était impossible et c'est arrivé ». Il y a, comme disent certains, un impressionnant silence. Et pourtant, les textes du Nouveau Testament ne sont pas du tout intemporels. Par exemple, il y a des allusions à des faits postérieurs à la vie de Jésus. Dans Saint Marc, on nous parle de Simon de Cyrène, on ne fait jamais attention à ça, le père d'Alexandre et de Rufus. On ne sait pas qui c'est, mais l'auditoire pour qui on a rédigé ça le sait, lui. Donc c'est incarné. Luc, dans ses actes, cite la prophétie d'Agabus, un gars qui a annoncé une famine, et précise qu'elle a eu lieu sous Claude. Donc il y a des références à l'histoire ou à des personnages réels. Et puis, la destruction de Jérusalem et du Temple sont un cataclysme aux conséquences spirituelles incommensurables pour le judaïsme comme pour le christianisme. Alors, comment est-ce, fait-il qu'on n'en parle pas si ça avait été écrit après ? A contrario, on peut se rendre compte aussi que certains épisodes, par exemple dans Matthieu, montrent qu'au moment où il était diffusé, son texte, le temple était encore debout. Par exemple, quand on parle de la taxe annuelle exigée pour le culte de Jérusalem, si on en parle, c'est qu'elle est, elle est en cours. L'obole de la veuve, c'est pareil. Ça serait sans objet si l'esplanade du temple n'était plus qu'un champ de ruines. Vous voyez ? Et puis, dans Luc, dans les Actes, on ne mentionne pas les martyrs de Pierre et de Paul, survenus en 65 et 67, l'ouvrage s'arrête en 62. S'il avait écrit ses livres tardivement, il aurait forcément parlé de la mort de Pierre et de Paul. Voyez. Donc l'idée centrale de Robinson, c'est de souligner le manque de l'absence de référence explicite à la destruction du temple dans les synoptiques, pour montrer qu'en fait, ils ont été rédigés antérieurement. C'est beaucoup plus évident, en fait. Alors, de là à dater le texte, c'est pas facile. Alors, on a réfléchi sur la langue de rédaction. Alors, les versions que nous avons sont en grec. Et ce grec comporte de nombreux araméismes ou hébraïsmes. Certains des auteurs, évidemment, sont juifs. Donc, ils pensent avec la mentalité juive. Par exemple, si vous prenez le Benedictus, le Magnificat ou le Pater, eh bien, ils sont construits selon les règles de la poésie hébraïque. Donc, voilà, on a des éléments. Donc, il y a des matériaux, évidemment, sémitiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les synoptiques, en fait, sont nés dans un processus. Alors, on a essayé plusieurs hypothèses. Personne n'a le fin mot, en réalité. Donc, certains ont pensé qu'il y avait une antériorité de Marc. D'autres ont pensé qu'il y avait une antériorité de Matthieu, qui aurait même un texte de Matthieu qui aurait d'abord été en araméen, et puis après une évolution du texte, d'autres sources, des témoignages. Donc il y aura un travail évolutif jusqu'à nos trois textes. Alors, c'est pas facile, c'est même à peu près impossible à déterminer, laissons les exégètes travailler. Ce qui est sûr, c'est que l'évangile, c'est d'abord une bonne nouvelle annoncée oralement. Et que petit à petit, on s'est mis à consigner cet exposé de la foi par écrit pour le prêcher ou pour le prier. Donc la liturgie joue un rôle, et on pense que l'élément déclencheur de la mise par écrit, c'est la liturgie et c'est la dispersion des apôtres au début des années 60. Il est quand même compréhensible de dire que au moment où les témoins directs se dispersent, on leur demande de dire les choses telles qu'elles se sont passées pour ne pas dire de bêtises. Enfin, voilà. Alors, quelques mots sur Matthieu, Marc et Luc, sans prétention. On a demandé à Matthieu de rédiger une forme écrite d'évangile. C'est ce que nous dit Saint-Irénée. C'est intéressant, une forme écrite d'évangile. Ça dit bien que c'est oral d'abord. Et donc Matthieu, c'est un témoin de la première heure, c'est Lévi, dit Matthieu, ancien chef du bureau de l'octroi de Capharnaüm, d'un rang social élevé, intellectuellement tout à fait apte à entreprendre une telle œuvre. Irénée nous dit, Matthieu publia chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Eusèbe de Césarée nous dit beaucoup plus tard, Matthieu prêcha d'abord aux Hébreux. Comme il devait aller vers d'autres, donc s'éloigner, quitter, voilà, il confia à l'écriture, dans sa langue maternelle, son évangile, suppléant du reste à sa présence par le moyen de l'écriture pour ceux dont il s'éloignait. Et sa version a été traduite en grec, et voilà. Chacun les traduisit comme il en était capable, dit Papias, vers 120. Il y eut au moins deux traductions, etc. Bon, alors après on a réfléchi à cette évolution du texte de Matthieu qui a été retouché, ça c'est sûr, et traduit. Voilà. Donc Matthieu, en tout cas, est écrit d'abord pour les Juifs. Luc, lui, c'est l'évangile des gentils, des païens, gentes. Luc, c'est un médecin d'Antioche, sud de l'Asie mineure. C'est un esprit cultivé et lettré, lui aussi. Et il entreprend de rédiger l'histoire de Jésus et celle de l'expansion du christianisme jusqu'à Rome. Et donc, dans son projet littéraire, le tome 1, c'est l'Évangile, et le tome 2, ce sont les Actes des Apôtres. Mais il n'y a qu'un seul projet.
Qui a dit ça?
Ça, c'est Luc. Voilà. Ah bah, ça, c'est connu. Mais nous, on les a séparés par commodité, mais c'est un seul projet littéraire, en réalité. Mon cher Théophile, etc. Mm-hmm. Alors, sans doute... avant la persécution de 65, on va en parler. Alors, il a été un proche collaborateur de saint Paul. Il a voyagé avec lui en Macédoine, en Grèce et à Rome. Et saint Irénée nous dit « Luc, le compagnon de Paul, mit en livre l'évangile qui avait été prêché par celui-ci. » Donc, quand vous lisez saint Luc, vous avez la catéchèse de saint Paul. D'accord ? Origène dit aussi « Luc est l'évangéliste qui se recommande de Paul. » Alors, Luc, il a fait un sacré itinéraire. C'était d'abord un païen. Il s'est converti au judaïsme, puis au christianisme. Il n'est pas un témoin oculaire, il le dit très clairement. Il a fréquenté de nombreux acteurs de la catéchèse primitive. Il n'a pas lu Marc et Jean, a priori, mais il les a rencontrés sans doute. Il a peut-être connu Pierre. Est-ce qu'il y a un contact avec Marie ? Peut-être, on le dit souvent, puisqu'il y a des parties sur l'enfance. En tout cas, si vous relisez Saint-Luc, vous pouvez remarquer qu'il connaît mal les coutumes familiales juives. Il ne vient pas du judaïsme. Il a une perception imparfaite des lieux. Et on pense que ses livres ont été rédigés en Achaïe, en Béotie. Il y serait mort d'ailleurs à l'âge de 84 ans. Son œuvre est destinée aux chrétiens issus du paganisme. Dans le monde méditerranéen, il y a beaucoup de douceur. Et il sait, notez-le, qu'il n'est pas le seul à poursuivre ce projet d'évangile, de mise par écrit de l'évangile. Et vous connaissez tous ce début, hein, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, cher Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Voilà, ça vient servir de support à la catéchèse reçue. Et donc, Luc cherche à faire œuvre, pour le coup, d'historien et de savant. Et on a remarqué que son évangile était assez proche des biographies hellantiques et que son prologue était même démarqué d'un traité d'un médecin militaire, Dioscoride, un traité qui s'appelle « Sur la question médicale ». Enfin, Marc. Marc, lui, est un chrétien venu du judaïsme, comme Matthieu. Fils de Myriam, faisant partie de la communauté chrétienne de Jérusalem, mais plus jeune. Vers 45, alors qu'il a une vingtaine d'années, il va accompagner Paul et Barnabé dans une première mission d'évangélisation en Asie mineure, mais il va les quitter et il devient ensuite collaborateur de Pierre, qui va l'appeler son fils. Il sera à Rome au début des années 60 et son évangile s'inspire de la catéchèse orale de Pierre, cette fois-ci. Voilà. Marc, nous dit Papias, donc toujours un apologète chrétien du début du IIe siècle, Marc, qui avait été interprète de Pierre, écrivit exactement tout ce dont il se souvint, mais non dans l'ordre de ce que le Seigneur avait dit et fait, car il n'avait pas entendu le Seigneur et n'avait pas été son disciple, mais bien plus tard, comme je le disais, celui de Pierre. Et son évangile date d'avant les persécutions de 65, et il a écrit pour les chrétiens issus du paganisme de Rome. Et alors, il explique les coutumes juives qu'il lui paraît indispensable de rapporter. Par exemple, vous voyez, c'est assez pédagogique, si vous lisez ça. Le livret se terminait par la découverte du tombeau vide, et il a été complété à une date ultérieure par une finale courte et une finale longue, synthétisant les apparitions mentionnées dans les trois autres évangiles. Voilà. En tout cas, on a des textes qui remontent au début des années 60, quelle que soit l'influence de l'un sur l'autre. C'est ça qu'on va retenir. Et donc, on est très près de l'événement, de la vie de Jésus. Et donc, on a des textes qui, a priori, du point de vue de l'historien, méritent vraiment d'être étudiés avec le plus grand sérieux. Voilà ce que l'historien va penser. Et on a le quatrième évangile, on a Jean. Jean est un témoin direct, précis, c'est le plus précis de tous. C'est le disciple que Jésus aimait, comme il se désigne lui-même. Son texte est sans doute ancien, avant la destruction du temple. On peut penser qu'il a été retouché, en particulier par la communauté qui était autour de Saint-Jean, qui a vécu très vieux, qu'on appelle la communauté joannique. On a aussi de lui une Apocalypse et trois lettres. On pense que la rédaction finale a eu lieu à Éphèse, définitivement à la fin du 1er siècle, même si évidemment la matrice est très ancienne. Et on distingue souvent dans son évangile, regardez, c'est heure par heure parfois, donc le premier livre, la première partie, on surnomme ça le livre des signes, vous savez qu'il ne dit pas miracle, hein, et la deuxième partie, le livre de l'heure, voici venu l'heure, aujourd'hui, maintenant, et on suit la passion minute par minute quasiment, on a les discours après la scène, hein, l'agonie au jardin, c'est... On y est, c'est pour ça qu'on dit ça, évidemment, le soir du Jeudi Saint. Voilà, donc, sur les sources chrétiennes, je pense que, du point de vue de l'historien, on a des éléments extrêmement tangibles et solides. Il me reste quelques minutes pour vous parler, dans une troisième partie, des reliques de la Passion. On les classe dans les sources archéologiques, mais alors, des objets tout à fait singuliers. Il y a quasiment rien de comparable sur Terre, si vous voulez. Bien sûr qu'on peut avoir une chemise portée par Napoléon, etc. Mais voilà, simplement, Napoléon, c'est pas Jésus, même si peut-être il s'est vu une grande vocation. Donc il y a trois grandes reliques attribuées à la Passion du Christ, le linceul de Turin, le suaire d'Oviedo en Espagne et la tunique d'Argenteuil. Alors je vais m'arrêter un peu sur le linceul de Turin et vous proposer d'abord une approche historique. Vous savez que c'est une pièce de lin de grand prix. Du point de vue du tissage, on dit que c'est un sergé à chevron. Alors, je vais regarder. Hein, donc, c'est des techniques de tissage. Le chevron, on le voit très bien sur le tissu lui-même. Et quelle est son histoire? Alors, on a essayé de reconstituer l'histoire de ce linge jusqu'au moment où il est parvenu jusqu'à nous. Alors, je vais vous mettre sur le projecteur quelques images du linceul en diaporama. Vous ferez tourner. Je vais au moins vous montrer le visage du personnage. Vous pouvez faire tourner l'ordinateur jusqu'à temps que vous pouvez faire circuler les diapositives, il y en a une douzaine. Alors, dans l'évangile des Hébreux, donc dans un des textes apocryphes, on nous parle de ce linge, dont on nous dit qu'il a été confié à la garde de Saint-Pierre, qu'il a été sans doute emporté dans les grottes de Pella en 66. En 66, la communauté chrétienne a quitté Jérusalem. Ce qui fait que les chrétiens ne se sont pas fait prendre dans le massacre général de l'an 70 par les Romains. On nous parle des choses, des objets, des images sacrées qui ont été emportées. Vous pouvez faire circuler les images, hein. Alors, c'est d'autant plus intéressant que la loi de Moïse tenait pour impur tout ce qui touchait à un cadavre. En 340, Saint Cyril de Jérusalem témoigne de l'existence du linceul, témoin de la résurrection. Des textes attestent qu'il a été transporté à Édesse, à Urfa, aujourd'hui en Turquie, par un disciple, Thaddée. Il a été longtemps caché dans une niche au-dessus de la porte de l'Ouest. Il a été redécouvert au VIe siècle, en 544, et il a été vénéré dans la cathédrale comme une icône du Christ, donc on voit bien, sans savoir en fait qu'il s'agissait d'un linge funéraire couvert de sang, parce qu'il était plié dans un reliquaire, et on ne l'a pas ouvert, donc on ne voyait que le visage. Et donc on pensait que le visage de Jésus s'était imprimé miraculeusement sur ce linge, le mandilion. Constantinople, donc les empereurs byzantins, ont négocié avec le sultan de l'époque l'acquisition de ce linge. Et le 15 août 1944, les Byzantins l'ont reçu, lui ont fait traverser le Bosphore et l'ont installé solennellement dans une grande chapelle. Et à ce moment-là, ils ouvrent. Et ils se rendent compte que le linge a été plié 4 fois en deux, dans son reliquaire, et les traces de ses pliures sont visibles à la lumière rasante. Et donc on le déroule, et il se révèle dans la totalité de ce que vous pouvez voir sur une des images ici. On voit le corps nu du supplicié. On a un drap sépulcral, qui a enrobé un homme comme ceci. Voilà. Et donc, quand on le déplie, ça nous donne, j'ai envie de dire, le recto verso. Alors, on voit bien sur une des illustrations comment c'était. Hein. Grégoire, archevêque de Sainte-Sophie, parle d'une image ne résultant d'aucune couleur naturelle. Voilà, et on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose d'exceptionnel ici. Hein. On voit l'empreinte de la sueur sanglante et des gouttes sorties du côté. Alors, en 1147, ce linceul est montré au roi Louis VII, à Constantinople. En 1171, il est montré à Amaury de Lusignan, roi de Jérusalem. On parle du drap que l'on appelle Cine, dans lequel Jésus fut enveloppé. En 1203, il est montré à un chevalier picard, Robert de Clary. Et en 1204, c'est que les croisés pillent Constantinople, c'est pas glorieux, mais ils vont aussi piller des reliques insignes. Et le linge disparaît. On va le retrouver à Athènes, emporté par un franc-comtois, Othon de la Roche, chef des croisés. Ensuite, la relique disparaît pendant un siècle et demi. On la retrouve en 1357 en Champagne, j'allais dire chez nous, chez l'arrière-petite-fille d'Othon de la Roche, qui s'appelait Jeanne de Vergy, épouse de Geoffroy de Charny. Et il y aura des ostensions régulières à Liray et à Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs et dans quelques autres lieux. Et puis, le linge est cédé à la famille de Savoie. Il est à Chambéry de 1453 à 1578, puis il est transféré à Turin, où il est toujours, et où il est propriété du Saint-Siège depuis 1983. Des foules de pèlerins viennent l'y vénérer, il y a une dévotion à la Sainte Face, depuis Saint-Charles-Borromée, Sainte-Jeanne de Chantal, et bien sûr, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Mais le tournant incroyable de ce linge, c'est quand, en 1898, on le photographie, et à l'ancienne, et donc il y a le bac révélateur, et on se rend compte que le linceul a les propriétés d'un négatif optique. Vous savez que quand on regarde un négatif, c'est bizarre quand on regarde une photo de soi en négatif, mais alors le linceul a ses propriétés, donc négatif sur négatif, ça fait positif, et on le voit beaucoup mieux comme on le voit par ici, en noir et blanc. En 1931, donc c'est une révélation, il a failli lâcher sa plaque de verre des mains, le médecin qui a fait ça, le chevalier Secundo Pia. En 31, on a fait une nouvelle série de photographies par un photographe professionnel avec des clichés de bien meilleure résolution. Là, on a vu les lésions avec une inexactitude irréprochable, tant sur le plan anatomique que circulatoire. Et se sont multipliées les études médico-légales, notamment par des Français, Pierre Barbet, Paul Vignon, qui ont permis de voir des tas de choses. Par exemple, on a établi des points de convergence entre le visage de l'homme du linceul et les icônes du portrait du Christ dans l'art chrétien. Même la goutte de sang en forme d'epsilon sur le front, qui en fait résulte de la contraction d'un muscle facial dans laquelle a passé du sang et qui est représenté comme un cheveu sur les icônes, en fait, montre que les peintres, dès le VIe siècle, qui l'ont pris pour une mèche de cheveux, se sont inspirés de ce visage. C'est le même. Même la ligne transversale sous le menton dans les icônes correspond en fait à un mauvais pli du tissu du linceul. Et le modèle canonique du Christ, adopté depuis le VIe siècle, vient du linceul. Et puis, il y a l'époque, je vais vite évidemment, des recherches scientifiques depuis la fin des années 60. On a tout fait. 3000 photos, des tests microchimiques, spectrographiques, infrarouges, microscopie optique, fluorescence ultraviolette. Pour le dire rapidement, eh bien, ce n'est pas une peinture. Il n'y a pas de traces de pinceau, de pigments colorés, pas de direction picturale, pas de contour. Comme on dit, c'est une image achéropoïète, c'est-à-dire non faite de main d'homme, quasi indélébile, résistante à la chaleur et à l'eau, qui n'a pas d'effet directionnel. Ce n'est pas un frottis, ce n'est pas une œuvre d'art. Je connais un seul autre exemple d'image dont on n'explique pas l'apparition. C'est le manteau du berger à Notre-Dame de Guadeloupe. On ne sait pas comment cette image s'est faite humainement. Les taches de rose carminée à l'endroit des plaies sont bien du sang humain. Il y a une correspondance absolue avec l'anatomie du corps représenté et à son système artériel et nerveux. Et à la lumière ultraviolette, on voit des lésions, des écorchures jusque-là invisibles. L'image s'est produite par une émanation à distance, comme si le linge était à cette distance de mon corps, par projection orthogonale, Elle est formée par une oxydation acide déshydratante de la cellulose du lin. En gros, ça a légèrement brûlé. C'est pas la bonne formule, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a un brunissement dégradé qui n'affecte que le sommet des fibrilles du linceul sur une épaisseur de 20 à 40 microns. Et l'intensité varie en fonction de la distance entre le corps et le drap. L'intensité est plus forte si le drap touche le corps, et elle est moins forte si elle est éloignée. Ce qui fait qu'en rentrant toutes les données, on a fait, dès les années 70, une image tridimensionnelle du linceul, et donc de l'homme qui était dedans. Alors, ça fait déjà beaucoup d'éléments, la concordance linge-évangile, études iconographiques, recherche pluridisciplinaire scientifique. On a calculé ça, que ça faisait 150 000 heures de travail, peu importe, pour conclure à son authenticité jusqu'aux analyses au carbone 14. Entreprise par trois laboratoires en 88, Oxford, Zurich, Tucson, qui ont daté le linge des 13e et 14e siècles. Alors, c'est embêtant. On s'est rendu compte que, en fait, le linge, pour le faire très vite, a été contaminé par toutes sortes de pollutions, bactéries, champignons, carbonate de calcium, moisissures, rapiessage. Par exemple, le poids moyen du tissu analysé est de 42 mg au centimètre carré, alors que le poids moyen du tissu, par ailleurs, est de 23 mg. Il a été restauré sur plus de 40% de sa surface. Donc on n'a pas forcément analysé un échantillon pertinent. On a détecté de la présence de vanilline sur l'un des échantillons prélevés. On a donc voulu recolorer le linge réparé. Et Oxford, en 2008, n'a pas exclu une erreur dans les travaux entrepris 20 ans plus tôt et s'est dit prêt à nouvelles recherches. En tout cas, quand on regarde dans nos sources, là vous avez vu exactement cette image-là, en 1150, un groupe de seigneurs hongrois est venu à Constantinople en délégation diplomatique pour préparer un mariage et on a montré à cette délégation hongroise la relique et un membre de la délégation l'a dessinée. Et on voit de nombreux détails, le corps, les mains l'une sur l'autre, le pouce rentré, le tissage en chevron, les quatre points de brûlure en équerre, là on les voit bien, vous voyez, on les a mis ici sur cette image-là. Ce document est conservé à la Bibliothèque nationale de Budapest, c'est ce qu'on appelle le Codex de Prey, qui est de la fin du XIIe. C'est le même linceul que celui qui est arrivé en 944. Donc déjà, le carbone 14 se trompe, forcément, d'au moins plusieurs siècles. Mais il se trompe tout court pour des raisons que j'ai dites. Alors, depuis, il y a des tas de choses qu'on a analysées. Par exemple, les pollens. On a découvert des pollens dans le linge, beaucoup. Des pollens de plantes de la mer morte, même disparues depuis le 8e siècle. On a trouvé 13 espèces de plantes ne poussant que dans les déserts salés, au sableux de la mer morte et du Néguev. On a découvert des pollens de plantes qui ne fleurissent qu'en avril à Jérusalem. Donc c'est assez surprenant. Les tissus. À Masada, la forteresse où les Juifs se sont retranchés, après leur révolte, on a retrouvé une pièce d'étoffe en lin dont la texture correspond exactement à celle du linceul. Et certains ont même pensé qu'il provenait du même atelier de tissage. Il y a une couture du même type que celle que nous avons là, avec une bande latérale de 7 à 8 mètres d'épaisseur, découpée le long du linceul. Elle est plate d'un côté et renflée de l'autre. Il n'y a aucune autre couture semblable trouvée ailleurs. Ça la date assez précisément du 1er siècle. Pour l'iconographie, les contours du visage de l'homme se superposent à ceux du Christ figurant sur les monnaies byzantines du 6e-9e siècle. Voilà. Il y a des tas de choses qui permettent de dire l'authenticité jusqu'aux pièces de monnaie, vous savez. Sur les paupières, on a détecté des traces de pièces de monnaie. Sur les pièces de monnaie, on a dit qu'il y a un problème. Une faute d'orthographe. C'est encore une arnaque, votre truc, on ne sait pas comment vous avez fait, mais jusqu'au jour où on a retrouvé deux de ces pièces, par l'archéologie, avec la faute.
Avec
la faute. Et puis sur le linge, il y a des inscriptions en grec aussi, enfin, je n'ai pas le temps de tout dire, mais vous voyez qu'on a un document, on ne peut conclure qu'à son authenticité. Alors maintenant, parlons des deux autres reliques. J'ai quelques instants à vous prendre encore. À Oviedo, on a une toile de lin rectangulaire de 85 sur 52 avec un tissage archaïque conservé dans un cadre d'argent qui passe pour avoir épongé le Christ à sa descente de croix. C'est sale, taché, déchiré, brûlé. Il y a deux grandes taches de sang et des auréoles de liquide séreux qui se superposent autour d'un axe vertical. On connaît l'histoire de ce linge. Là encore, il aurait fait partie des reliques de la Passion conservées par les premiers chrétiens. En 570, un pèlerin anonyme de Plaisance assure que dans une caverne des rives du Jourdain, on peut le voir, ce sudarium. Il a été transféré à Alexandrie en 615, puis en Espagne, à Séville, à Tolède, à Oviedo, au temps des invasions musulmanes. Et là aussi, on a analysé les pollens et le sang. On a des tas de choses dont je vais reparler à l'instant. À Argenteuil, enfin, peut-être avez-vous vu lors des récentes ostensions ce vêtement qui est, lui, en, non plus en lin, mais en laine de mouton, brun, pourpre, un peu vineuse, rapiécée, abîmée, mangée au mythe, qui passe pour être le vêtement joué au dé par les soldats romains, qui a été conservé dans un coffret en marbre à Jaffa, présence attestée là-bas à la fin du VIe siècle, qui a été transféré près de Constantinople ensuite, Grégoire de Tours en parle, qui est arrivé en France, enfin chez nous, au IXe siècle. C'était un présent de l'impératrice Irène de Constantinople à Charlemagne pour leur futur mariage. Charlemagne l'a offert à sa fille Théodrade, abbesse du monastère Notre-Dame d'Humilité à Argenteuil. Le linge a été caché dans un mur de l'abbaye au temps des invasions normandes. On l'a retrouvé dans un coffre d'ivoire en 1156. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis on l'a recaché pendant les guerres de religion, et puis on l'a recaché sous la Révolution, et le curé d'Argenteuil l'a même découpé en plusieurs morceaux, qu'il a enterré dans son jardin pour être sûr que, même si on en trouvait un bout, tout soit pas perdu. Alors on a analysé ce linge, bien sûr. Le tissu, c'est un tissage en fil simple, régulier, fortement torsadé en Z, comme les tissus d'origine syrienne trouvés à Doura Europos, près de Palmyre. Tissu sans couture, teinté avant tissage par de la garance. On a des procédés antiques du Proche-Orient. Il y a plein de poussières de silice qu'on trouve dans les sols de nature désertique ou quasi-désertique. Des pollens. La relique est par ailleurs gorgée de sang humain. Voilà, on a même détecté les lymphocytes, etc. Alors, si on compare tout cela, on pourrait parler des pollens, bien sûr, c'est les mêmes. Parlons juste du sang. Sur le linceul et la tunique, les taches de sang s'avèrent de même dimension et de même forme. Elle se superpose à 90%. Entre le linceul et le suaire, la cartographie sanguine quasi parfaite est quasi parfaite au niveau de la barbe. Les petites taches de sang sur la nuque évoquent la couronne d'épines. Le sang, et pas seulement les taches. Sur les trois tissus, c'est le même groupe AB, groupe assez rare, c'est 4% de la population mondiale, 18% chez les juifs, babyloniens et judéens. C'est le même sang. Les trois reliques ont été en contact avec le même individu. On a donc, si on récapitule, les sources non chrétiennes, les sources chrétiennes et les reliques attribuées à la Passion, un ensemble de sources en réalité absolument exceptionnelles pour accéder à un personnage qui a vécu il y a 2000 ans. Donc l'historien face à Jésus est bien face à un visage que l'on peut contempler sur le linceul, et dont nous évoquerons la postérité en évoquant les débuts de l'Église la prochaine fois. Je vous remercie. Merci.